J'aimerais vous parler de Job un petit peu, mais on verra quelques textes dans le livre de Job. Le 23 avril 1992, à Washington, au siège de la Société américaine de physique, George Smoot, prix Nobel de physique 2006, le père du fameux télescope Kobe, commenta les premières images de ce qu'on appelle l'univers primordial par ces mots devant un parterre de journalistes internationaux et scientifiques. C'est comme voir le visage de Dieu. Alors Pierre vous en a déjà parlé, moi aussi, Richard aussi, c'est pas mal illustré dans les livres des frères Bogdanov. Mais c'est une image extraordinaire qu'il donne là. En fait, le télescope Kobe venait de photographier la lumière la plus ancienne jamais émise par l'univers. Alors, l'idée, c'est que, bon, si ça vous évoque rien, parce que c'est trop éloigné, brièvement, c'est comme si l'univers serait âgé de plus de 13 milliards d'années, d'après les scientifiques, et serait né d'un point qui concentrerait tout l'univers au départ. Et puis, ce point où il y a là une concentration de température, une concentration d'énergie, de rayonnement extraordinaire, et puis il y a une espèce d'explosion, et une explosion de lumière, et de toutes sortes d'énergies, de particules, tout est concentré là. Et puis ça arriverait, si vous voulez, nous on est dans cette expansion-là, et comme la lumière se déplace à 300 000 km par seconde, et que ben, ce seraient des particules qui auraient été au-delà de cette vitesse-là, on pourrait contempler cette lumière primordiale de l'univers. Alors la lumière, 13 milliards d'années, une lumière qui, un peu après 13 milliards d'années, mais on n'est pas là. Et voilà, on contemple cette lumière. Alors vous pouvez regarder sur Internet, on voit, il y a l'image qui est sur Internet. Robert Wilson, prix Nobel de physique 1978, écrit ceci le 11 avril 2010. Même si cette image est frappante, j'aurais préféré dire, nous sommes en train de contempler le visage de la création, plutôt que celui du créateur. Mais en fin de compte, il y a certainement eu quelque chose au commencement pour tout mettre en place. À mon sens, si vous êtes religieux, selon la tradition judéo-chrétienne, il n'existe pas de meilleure théorie à l'origine de l'univers qui puisse correspondre à ce point à la Genèse, dans l'univers scientifique. Alors quand j'ai lu ceci pour la première fois, j'ai pensé à cette image qu'on peut avoir, vous savez, cette image humoristique d'avoir les scientifiques en train de gravir une montagne avec des piolets. Puis il y a des nuages qui sont là et le sommet au-dessus des nuages, et au sommet, il y a des théologiens en train de faire une partie de cartes. Sommes-nous arrivés là-haut, pendant que les scientifiques sont en train de chercher une réponse? Alors nous avons, nous les croyants et les chrétiens particulièrement, cette arrogance de dire que nous savons, nous connaissons. Et je me pose la question suivante, ben, qu'est-ce que je sais vraiment de Dieu? Est-ce que j'ai déjà vu Dieu? On dit que, enfin, Paul dit aux Romains que toute la création nous parle de sa gloire. Et un petit peu, c'est quand on contemple la création, oui, on contemple la gloire de Dieu. Les Écritures nous parlent beaucoup de Dieu et on peut apprendre à connaître Dieu. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Le Nouveau Testament et particulièrement les écrits de l'apôtre Jean, mais aussi de l'apôtre Paul, parle beaucoup de la connaissance de Dieu. Et en Jean chapitre 17, verset 3, un verset que vous connaissez par cœur, c'est la dernière prière de Jésus, enfin on appelle ça la prière sacerdotale, où il prie avant de s'offrir en sacrifice, avant d'aller dans le jardin de Gethsémané et d'offrir sa vie. Il dit ceci: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, c'est intimement lié à notre salut. Parce que, en fait, c'est ça le salut, c'est connaître Dieu. C'est la vie éternelle, c'est connaître Dieu, être dans sa présence. Alors, qu'est-ce qu'on connaît vraiment de Dieu? On pourrait dire, tu ne peux connaître Dieu, mais tu dois le connaître pour savoir cela. Tu ne peux connaître Dieu, mais tu dois le connaître pour savoir cela. C'est bien sûr un paradoxe, comme souvent en théologie, hein. Il faut mourir pour vivre la vie éternelle. Il faut être esclave de Dieu, de Jésus-Christ, pour être vraiment libre. C'est tous ces paradoxes-là. Pour connaître, il faut. Tu ne peux pas connaître Dieu, mais tu dois le connaître pour savoir cela. Le Dieu que nous cherchons à connaître n'est pas celui que nous croyons, n'est pas celui qu'on croit avoir compris, et encore moins celui de notre imagination. Dieu est bien loin de pouvoir être touché par notre connaissance. Alors certains disent connaître Dieu, c'est la vie éternelle, mais maintenant et pour toujours. Oui, c'est vrai. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle maintenant. Mais dans ce cas-là, on va se poser la question, quelle espèce de connaissance sera-ce au paradis? Puisque la vie éternelle, c'est connaître Dieu, quelle espèce de connaissance on aura? Alors, en lisant le Nouveau Testament, il est difficile de décrire la connaissance qui est décrite, hein, quand on essaie, il faut chercher, sonder les Écritures. Ce n'est certainement pas une somme de faits, hein, comme en physique, par exemple. Bon, on a des faits, voilà, ben, ça c'est la connaissance, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ce n'est pas non plus le type de connaissance que nous pouvons déduire d'un raisonnement, comme en philosophie, hein. Et pourtant, combien de fois on est dans nos discussions avec des non-croyants dans ce raisonnement philosophique? Oui, mais tu sais que voilà, la science nous dit aujourd'hui, c'est tout à fait, ça correspond tout à fait aux Écritures. C'est pas vraiment ça la connaissance de Dieu. Certains décrivent cette connaissance comme de l'intuition, mais je suis pas certain que cela soit suffisant. En fait, il y a deux mots ou phrases qui s'approchent du type de connaissance que nous recevons de la parole de Dieu. Et je vous en ai déjà parlé une fois. Le premier mot, c'est néanmoins. Et le deuxième mot ou la phrase est pourtant. Ça, c'est ce qu'on peut connaître de Dieu dans la parole de Dieu. Vous apportez un argument, semble-t-il irrévocable, et quelqu'un vous répondra néanmoins. C'est une négation qui est une affirmation quand même. Et pourtant et néanmoins sont deux expressions qui sont négatives, mais qui dépendent d'une affirmation positive. D'accord? C'est un peu, ça, hein, c'est pour vous expliquer un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Alors, on se précipite trop souvent vers ce que nous croyons savoir. Et puis on n'hésite pas suffisamment devant ce que nous ne connaissons pas. Et ce moment d'hésitation, c'est un moment de foi. C'est la foi. Qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? Ben, on y met sa foi. On sait qu'il est là, qu'il est présent. Et c'est sur sa foi, c'est sur notre foi qu'on a la connaissance de Dieu. On contemple l'univers, on y met sa foi et on rencontre Dieu. C'est une rencontre. On lit la parole, on y met sa foi en disant c'est la parole de Dieu, elle nous parle et on rencontre Dieu. C'est un moment d'hésitation, un moment où on dit où il y a le pourtant et pourtant et le moment où il y a néanmoins. Paul, en fait, ce moment d'hésitation, comme je vous ai dit, c'est un moment de foi, et en tout cas, qui peut faire naître la foi. Dans son aspect de négation, c'est un moment de grand vide, un moment où, ben voilà, on contemple la nature, toute la nature nous parle de Dieu, puis une grosse catastrophe arrive. Mais qu'est-ce que cette nature nous dit de Dieu ? Un ouragan, un cyclone, un tremblement de terre, on se dit, mais qu'est-ce que cette nature ? Et pourtant, néanmoins, ça crée un grand vide. Mais c'est ce grand vide qui est nécessaire, parce que seul Dieu peut le remplir. C'est ce moment où on met sa foi. Et Dieu vient le remplir. La foi naît d'un grand vide, pas d'un tout plein. C'est ça qui est un peu curieux. C'est cette idée-là que je veux vous donner. Paul le dit de cette manière aux Athéniens qui se trouvent à l'Areopage en Actes chapitre 17, versets 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de vous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Paul est en train de dire, toute la création, ça a été fait par Dieu, mais vous aussi, vous êtes la création de Dieu. C'est-à-dire que votre vie va dire quelque chose de Dieu. Afin qu'il cherche Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de vous. Celui qui a expérimenté cela, c'est Job. Et dans ce dialogue avec ses amis, alors que Job est dans une grande souffrance, Job crie à Dieu sa souffrance et son innocence. Il crie à Dieu l'injustice qui lui est faite. Voilà un homme qui servait le Seigneur, qui avait des biens considérables, des enfants fidèles. Et puis, tout lui est pris. Femme, enfants, biens, matériel et son intégrité physique. La maladie, les ulcères sur son corps. Ses amis fidèles qui sont d'abord restés dans le silence 7 jours et 7 nuits avant de lui poser la première question, qui passe 7 jours et 7 nuits auprès de son ami dans la souffrance, juste dans le silence, en le tenant par la main et en lui rapportant du réconfort, ce sont des vrais amis quand même. Mais voilà qui lui pose la question qui tue. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour subir un tel châtiment ? Ils le reprennent d'abord gentiment, puis ensuite sévèrement, en lui disant et en lui démontrant comment les choses fonctionnent avec Dieu. Bah oui, si tu es dans cet état, c'est que tu as péché. C'est curieux de s'apercevoir qu'on a des schémas tout faits dans nos têtes. Des visions de Dieu qui sont « bah Dieu, il fonctionne comme ça ». Hein, c'est comme ça, voilà comment. Et ils y croyaient dur comme fer. Et Job se demande, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu ? Et donc il scrute dans sa propre vie pour savoir ce qu'il a fait. Alors, il y a des gens qui vous disent, ben écoute, tu es en train de souffrir, mais je vais te dire comment ça marche avec Dieu. Et quand tu entends ça, tu te sens coupable du péché. C'est terrible. Et c'est important de cela, mais quand tu regardes dans ta propre vie, tu te dis, mais quand même, j'ai comme Job, j'ai pas mérité ça, j'ai pas mérité ça. Alors, parfois, on peut se dire, il y a des schémas tout faits dans la vie chrétienne, on peut dire, ben voilà, si tu veux venir à Dieu, tu dois te sentir coupable du péché, premièrement, tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu te livres à lui dans le baptême. Il te remplit de son Saint-Esprit. Tu suis sa parole fidèlement et tu le pries pour savoir où aller. Voilà. Ça, c'est le programme qui... Alors, c'est vrai. Hein, je crois qu'on est d'accord dans l'ensemble avec ça. Hein, c'est... Et pourtant, néanmoins, c'est pas une mécanique. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, hop, voilà, je vais t'expliquer les Écritures, je vais t'expliquer comment arriver au salut. Non, Dieu, c'est pas comme ça. C'est bien sûr, c'est un guide, mais c'est pas, ça résume pas Dieu. Il est bien plus grand que cela. C'est pas faux, néanmoins, ce n'est pas cela le salut. Quand quelqu'un est déprimé, on a souvent tendance à lui apporter ce type d'arguments, des arguments tout faits, comme si la vie était un ensemble de cubes hein, qu'on montait les uns sur les autres, comme des Legos, hein, qu'il fallait juste remettre les cubes en place. Hein, voilà, il faut que tu remets ta vie en place. Ah non, la vie, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Alors Job se défend hein, contre ses amis et contre Dieu. Hein, néanmoins, il ne perd jamais espoir. Jamais. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, dit Job au chapitre 19, versets 25 à 27. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur, c'est comme s'il avait déjà la pensée de Jésus-Christ qui allait arriver et qui allait racheter tout ça, toute cette injustice-là. Job a cette foi-là. Alors, Job ne perd pas espoir, mais il argumente. Et il argumente même avec Dieu en disant « Tu es tout puissant, je te suis fidèle, comment peux-tu permettre qu'une telle chose m'arrive ?» Et Dieu lui répond de manière, parfois je trouve, assez sévère. Et on va juste lire deux passages en Job, chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, c'est une tempête, hein. C'est la tempête, c'est la colère. C'est pas, et Job, il reçoit ça d'une manière fulgurante. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le. Si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? De quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança et sortit du sein maternel? Et au chapitre 39, Job réplique, versets 36 à 38. Non. Il n'y a pas de 36 à 38. Verset 26. Non, c'est encore Dieu. Est-ce que par ton intelligence, est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol ? Et qu'il étend ses ailes vers le midi. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il demeure et passe la nuit, sur une dent de rocher comme une forteresse. De là il éplie sa proie, de loin ses yeux l'aperçoivent, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, il est là. Et la réponse finale de Job à tout cet argument, elle est extraordinaire. Job est terrassé par la réponse de Dieu. Une réponse violente qui le met par terre. Il est obligé d'être... Lui qui était peut-être debout devant Dieu avec toutes ses plaies, il se retrouve à terre, devant Dieu, face contre terre. Mais cette réponse finale est extraordinaire. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissances, il reprend les paroles de Dieu. Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi, et moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Qu'est-ce que Job a pu bien voir? Certains d'entre vous ont probablement fait cette expérience à travers la souffrance, avec une rencontre avec celui dont ils avaient entendu parler, et puis à travers la souffrance, ben, tout à coup ils se trouvent face à face avec leur Dieu, ou dans un détour, à travers une grosse tempête qui traversait leur vie. Vous vivez et cherchez dans l'erreur parce que Dieu veut dire mouvement et non explication. C'est Elie Wiesel qui disait ça, c'est un auteur juif américain qui a vécu dans les camps et qui a assisté à l'exécution de ses proches par les nazis. Vivez et cherchez dans l'erreur parce que Dieu veut dire mouvement et non explication. Ça vous dit quelque chose, mouvement? On l'a lu, hein, l'apôtre Paul. Le mouvement, la vie et l'être. En lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Alors, ce n'est pas l'explication de nos souffrances qu'on a quand on rencontre Dieu, mais c'est une rencontre avec le Créateur de toutes choses. Et ça semble être quelque chose qui doit naître parfois d'une relation avec la vie de souffrance. Mon œil te voit. La puissance de la prière dépend presque essentiellement de notre capacité à assimiler qui est celui à qui nous nous adressons. Si on comprend bien qu'on adresse nos prières à Dieu et qui il est, notre prière dans notre cœur prend une toute autre forme. Plutôt que juste une litanie ou juste quelque chose de récité, ou même, vous avez déjà remarqué, on fait souvent des prières avec des phrases assez stéréotypées, et quand des gens prient, on reconnaît, tiens, c'est lui qui prie, c'est... On a nos phrases qui nous permettent d'exprimer. Mais quelquefois, dans nos prières, on a de nos phrases stéréotypées. Avant de se coucher, on fait notre petite prière. Et puis, on cite le nom des gens qu'on a dans la prière, dans le cœur. C'est bien. C'est bien. La prière, c'est une rencontre. C'est plus profond que ça. On s'adresse à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Abba, Père. Notre Père, notre Papa. Dieu est tout ce que j'ai quand on dit ça. Je n'ai rien d'autre que lui. Rien d'autre que Dieu. Finalement, si vous regardez honnêtement dans votre vie, en tant que croyant, vous n'avez rien d'autre que Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui est vraiment pour vous, c'est lui. Même pas vous-même. Mais lui, il est seul. Et il est tout puissant. Alors c'est vrai que lorsqu'on prie, nous sommes parfois au bord d'un océan et athées, les athées prient. Hein. Tout le monde prie quasiment. Hein. Les agnostiques, les croyants de toutes sortes, on expérimente tous plus ou moins des saisons de grande tristesse dans nos existences. Mais c'est une tragédie pour celui qui crie dans le vide de la nuit, sans cette profonde consolation qu'il y a quelqu'un qui écoute. Qu'il y a quelqu'un qui voit les larmes sur nos visages. Alors, ce n'est pas des réponses intellectuelles à nos prières, parce que parfois ces prières-là sont sans réponse, mais juste de savoir que Dieu est là et qu'il voit, qu'il nous voit et qu'il en tient compte. Cela comble un besoin émotionnel certainement plus profond qu'un besoin intellectuel de comprendre ce qui arrive. Le besoin de savoir que ce que nous traversons, ce que nous ressentons, compte pour Dieu. Le besoin de savoir que nos prières ont été entendues. Le besoin de savoir que Dieu, en qui nous avons placé toute notre confiance, est là, tout près, et compatit vraiment à notre détresse. Dans les frères Karamazov de Dostoïevski, il raconte l'histoire dans une partie du livre d'un sage qu'on appelle un starets, starets Zosim. Et ce starets, il est sur son lit de mort, il est prêt à rendre l'âme, et on est là, il y a quelques personnes qui sont là pour l'écouter, et notamment Alyosha qui l'écoute. Et donc un des trois frères, et il parle de l'écriture, et que la parole de Dieu dans sa vie, c'était quelque chose d'extraordinaire, et notamment le livre de Job. Il dit, je ne peux pas lire le livre de Job sans pleurer. Et il dit, quand j'y pense, j'ai les larmes qui me viennent encore dans les yeux. Mais il dit, on entend dire autour de nous, comment le Seigneur pouvait-il livrer au diable un juste qu'il chérissait, lui enlever ses enfants, le couvrir d'ulcères, le réduire à nettoyer ses plaies avec un tesson, et tout cela pour se vanter devant Satan? Voilà ce que peut endurer un saint pour l'amour de moi. Mais ce qui fait la grandeur du drame, c'est le mystère. C'est qu'ici, l'apparence terrestre et la vérité éternelle se sont confrontées. La vie terrestre voit s'accomplir la vérité éternelle. Ici, le Créateur approuvant son œuvre, comme au premier jour de la création, regarde Job et se vante de nouveau de sa créature. Et Job, en le louant, sert non seulement le Seigneur, mais toute la création, de génération en génération, au siècle des siècles, car il y était prédestiné. Seigneur, quel livre et quelle leçon, quelle force miraculeuse, l'Écriture sainte donne à l'homme. C'est comme la représentation du monde, de l'homme et de son caractère. Que de mystères résolus et dévoilés. Dieu révèle Job, relève Job, lui restitue sa richesse. Des années s'écoulent et il a d'autres enfants. Il les aime. Comment pouvait-il chérir ses nouveaux enfants après avoir perdu les premiers? Le souvenir de ceci permet-il d'être parfaitement heureux, comme autrefois, si cher que soient les nouveaux? Mais bien sûr, la douleur ancienne se transforme mystérieusement peu à peu en douce joie. L'impétuosité juvénile succède la sérénité de la vieillesse. Je bénis chaque jour le lever du soleil, mon cœur lui chante un hymne comme jadis, mais je préfère son coucher au rayon oblique, évoquant de doux et tendres souvenirs, de chères images de ma longue vie bienheureuse, et dominant tout, la vérité divine qui apaise, réconcilie, absout. Ça, c'est une parole encourageante pour la vieillesse, pour la dépendance, la maladie, de pouvoir avoir cette paix-là que le Seigneur donne. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intelligence, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Parce que ce qui est sûr, c'est que toute cette création, c'est Dieu qui l'a faite. Ce qui est sûr, c'est que ce que nous sommes, c'est Dieu qui l'a fait. Alors est-ce que notre vie va raconter sa gloire? Le contenu de la foi chrétienne ne tient pas dans une démonstration ou en argument. Non, ça tient dans une vie. Ça, c'est la démonstration. Il y a deux gamins de village qui regardaient attentivement un pasteur qui réparait le portail en bois de sa maison avec des clous. Et puis, il est resté là, ça faisait une demi-heure qu'il regardait le pasteur. Et puis, le pasteur est un peu ému de voir ces deux gamins qui le regardent de sa paroisse. Et puis, il dit, c'est très bien, mes enfants, d'observer comment on travaille de ses mains, parce que vous savez d'ailleurs que Jésus a pratiqué le métier de charpentier avant de commencer son ministère. les gamins ils disent c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On attend juste de savoir ce que dit un pasteur quand il se tape sur les doigts avec le marteau. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est un petit peu ça qui peut nous arriver dans notre vie. Notre vie raconte sa gloire, la gloire de Dieu. Mais c'est dans les épreuves, dans les moments difficiles comme Job traversé, que sa gloire, elle se voit dans la vie d'un homme ou d'une femme qui traverse les épreuves. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, nous dit l'auteur du livre aux Hébreux, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en continuant, c'est le chapitre 11, ça commence le chapitre 11 comme ça, et en continuant, il va exposer à travers toutes les Écritures l'exemple des hommes et des femmes qui ont traversé les Écritures et qui ont souffert, qui ont vécu des choses terribles, terribles. Et il termine en parlant des martyrs de son temps, de son époque, quand il écrit ça. Certains ont été sciés en deux, tués par le glaive. Tout ça comme démonstration des choses qu'on ne voit pas. Notre vie, si elle est consacrée à Dieu, devient une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est comme ça qu'on montre notre foi. Et cette démonstration, elle se résume en une chose. Vous connaissez ce passage, la persévérance, la souffrance, la persévérance, la patience. Et ça se termine par une chose, c'est l'amour. Ça fait grandir l'amour dans nos vies. L'amour qui se manifeste dans la paix, la joie, dans l'assurance, dans une espérance qu'on met en Dieu. La foi chrétienne n'est pas quelque chose qu'on pourrait comparer à une autre foi en disant « c'est mieux, vous voyez c'est mieux ». Non, elle est mouvement, vie et être. Votre foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Peut-être vous ne le voyez pas pour le moment, mais pendant que vous cherchez en tâtonnant, d'autres vous regardent et admirent l'œuvre de Dieu dans vos vies. Ça, c'est la réalité de nos existences. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour tous ces exemples dans l'Écriture dont il faut que nous nous nourrissions, que nous puissions voir l'œuvre de leur foi que tu as mise dans leur cœur, ce qui a transformé leur existence et ce qui va transformer la nôtre. Seigneur, je veux te dire, nous voulons te dire encore aujourd'hui que nous voulons lâcher prise sur nos existences, sur essayer de tout comprendre. Mais nous voulons te remettre toutes choses, Seigneur. Tous les choix que nous avons faits, bons ou mauvais. Tous les désirs que nous avons, Seigneur, bons ou mauvais. Nous voulons tout te remettre. Nous voulons te remettre, Seigneur, les bons moments de nos existences, mais aussi les épreuves. Te remettre, Seigneur, nos inquiétudes pour demain. Parce que c'est à toi qu'appartiennent toutes choses. Seigneur, tu as mis dans notre vie, dans notre existence, la vie, le mouvement et l'être, et nous voulons vivre par cela, Seigneur. Mets ton esprit encore ce matin dans nos vies. Et tu l'as mis, Seigneur, ton Esprit Saint dans nos vies. Aide-nous à te laisser agir dans nos existences par la puissance que tu nous donnes. Un esprit, Seigneur, qui n'est pas un esprit de timidité, mais de puissance, de zèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.